André du Mouchmail au Kassai oriental. J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la suite de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange dans Parole aux auditeurs. Le monde a célébré le 9 décembre dernier la journée internationale de lutte contre la corruption, instaurée par les Nations Unies depuis 2003 et visant à sensibiliser les États membres à agir pour mettre fin à ce fléau. Et dans le rapport publié mercredi 3 décembre dernier par Transparency International, la RD Congo occupe la 154e place sur 174 pays sur le classement par rapport à la corruption. Le pays occupait la même position l'année passée. Il n'y a pas eu donc de grands changements. Selon Lucas Olo Fernandez, coordonnateur régional Afrique centrale des Transparency International, les problèmes de corruption à RDC seraient notamment liés aux affaires des industries extractives et des travaux publics. Quels peuvent être, selon vous, des mécanismes plus efficaces pour mettre fin à cela? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. J.R. Lungembo coordonne cette émission réalisée par Julie César. Eric Sidiakala est à la mise en onde et Théo et la Meiji vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous parlons de la corruption. Que faudrait-il pour mettre en place des mécanismes plus efficaces pour améliorer la lutte contre la corruption en RDC, selon Transparency International? On occupe la 154e place sur 174 pays. Cette ONG estime que la plupart des cas de corruption sont liés aux affaires dans les industries extractives des travaux au public. Ensemble, nous allons dégager dans cette émission des pistes de solutions, mais nous avons associé à cet échange le professeur Saint-Augustin Mouindambali. Professeur, bonjour.
Bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Bonjour, messieurs les présentateurs.
Vous êtes le directeur général de l'Observatoire du Code des éthiques professionnelles, c'est ça?
Affirmatif.
Beaucoup de choses ont été faites, nous en avions discuté avec vous dans cette émission autour de la corruption. Alors, au niveau de l'Observatoire, quand il y a par exemple un rapport d'une ONG comme ça, quelle est votre lecture de ce rapport?
Merci beaucoup. Nous avons commencé à suivre le classement des Transparency International depuis 2003. Si nous regardons ces classements par rapport à aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au dernier classement, il faudrait connaître les efforts déployés par la RDC pour pouvoir améliorer son image en matière de lutte contre la corruption. Et si je vous dirais, en 2003, nous sommes retrouvés avec la note de 2 points. En 2008, nous sommes descendus jusqu'à la note de 1.7, c'est le creux. Et dès là, les responsables du pays, les autorités du pays, ont pris un certain nombre de mesures pour que cette notation puisse être améliorée. Il y a eu la conférence nationale sur la lutte contre la corruption. Il y a eu l'institution l'OSEP qui a été instituée pour que effectivement nous puissions commencer le travail de sensibilisation et d'éducation. Et dernièrement ici, en 2013, nous nous sommes retrouvés avec le monde des affaires, le monde de la société civile, les institutions publiques de l'État pour signer le pacte anticorruption. D'ailleurs, la cérémonie a été présidée par le Premier ministre Matata Pognon, à qui je réitère mes félicitations pour sa reconduction. Donc, vous voyez autant d'efforts. Et de la note de 1.7, nous sommes remontés à 2.2, que nous venons de répéter deux fois. Et je vous dirais que le thermomètre de Transparency International est un thermomètre sensible. On ne passe pas facilement de 2.2 à 10 points ou à 9 points sans qu'il y ait des arguments, des paramètres, qui attestent effectivement qu'il y a évolution. Alors, pour les mécanismes, puisque vous avez parlé de la proclamation, la publication cette année-ci, avec le point de vue de l'expert de Transparency International, je crois que Transparency International prend en compte plusieurs indicateurs d'appréciation. Il n'y a pas seulement le secteur minier où il y a la corruption. Il n'y a pas seulement dans les travaux publics où il y a la corruption. Pour preuve, s'il ne s'agissait que de ces deux secteurs, la RDC méritait de faire un bond en avant, dans quel sens? Parce que nous étions exclus par l'ITIE en matière de conformité aux normes. Nous avons présenté nos arguments de défense. Nous avons montré qu'il y avait des contrats qui n'avaient pas été publiés. Il y a eu erreur dans la publication de contrats au sujet des noms. On nous a accepté, on nous a concédé la vérité et le pays encore était réadmis. Donc, le problème d'industrie extractive, là, ça ne se pose plus. Et ça ne peut pas constituer un argument pour justifier aujourd'hui la place qu'occupe la RDC. Au niveau des travaux publics, le gouvernement a fait un effort pour instituer les cellules des passations de marché dans chaque structure de l'État, dans chaque ministère, pour qu'on évite le système de vente de gré en gré, à gré. Donc, vous voyez autant d'efforts déployés par la RDC, mais qui n'ont pas été pris en compte par la cotation de cette année. Moi, je suis entré, je suis un spécialiste de la question, de constater que non, si la RDC a stagné, il doit y avoir d'autres raisons. Il doit y avoir d'autres considérations. Mm-hmm. Et je ne cache pas mes mots, je me dis la vérité. Depuis que la RDC a expulsé le chef de bureau du Bureau central des droits de l'homme, ici, de la MONUSCO, depuis que la RDC a montré effectivement que c'est un pays souverain qui ne peut pas accepter que quelqu'un, nous avons osé croire qu'on évoluait dans le sens de pouvoir diminuer les taux de criminalité dans notre pays. Il fallait prêcher par l'exemplarité pour sécuriser la nation, sinon on disait que la RDC était un pays indésirable. Au moment où on donne quelques laisseaux exemplaires, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs.
Voilà,
ça devient un argument pour pouvoir dire que la RDC vit encore dans les pratiques de corruption.
Non, je ne crois pas, peut-être que nous n'allons pas entrer dans la polémique autour de tous ces éléments, mais si nous prenons en compte le des secteurs, parce que si Transparency International considère que la situation demeure dans les industries extractives et les travaux publics, c'est que dans beaucoup d'autres secteurs, parce que quand on regarde d'autres rapports, c'était d'une manière un peu généralisée. On pouvait évoquer la corruption dans d'autres secteurs, on a déjà lu plusieurs rapports, mais dès lors qu'on a ciblé deux secteurs, ça montre quand même qu'à un certain moment, l'ONG a vu qu'il y a des paramètres qui ont assez évolué dans d'autres secteurs, mais c'est une manière aussi de demander de pouvoir un peu aller plus loin. Vous avez évoqué tout à l'heure la passation de marché. C'est vrai, l'essentiel, c'est pas la procédure de passation de marché, l'entreprise qui octroie toutes les procédures, mais c'est aussi ce qui se passe entre les lignes dans toutes les procédures. Est-ce qu'on peut être sûr que, quand bien même on a passé l'offre publique, mais est-ce que toutes les procédures internes sont respectées pour que l'entreprise, par exemple, qui au finish va gagner un marché pour un tel ouvrage, puisse vraiment les faire d'une manière à voir si on a respecté vraiment tout le parc? C'est ça aussi la grande préoccupation. Il ne suffit pas tout simplement de lancer l'offre, ni d'octroyer, mais c'est aussi en respectant les principes qu'il faut, et surtout sans céder au trafic d'influence et à d'autres conflits d'intérêts, quand il n'y a pas, par exemple, les politiques qui s'y mêlent. Est-ce que de ce côté-là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a séparation entre ce que les politiques font aujourd'hui et ils les regardent d'un œil assez éloigné de ce qui se passe dans la passation des marchés, tout comme dans l'octroi d'autres contrats sur les activités minières?
Je vous dirais qu'il y a le respect des manières de procédure. Je peux vous confirmer qu'il y a même la possibilité d'introduire un recours. Je vous ai envoyé un jour un expert en passation des marchés ici. L'autorité de régulation des marchés publics devient l'essence des recours. Au cas où vous trouverez que vous étiez lésé, qu'on a accordé le marché à tel individu au détriment de tel autre, vous pouvez introduire votre recours. Donc autant de voix qui montrent vraiment que la RDC a le souci de faire asseoir la transparence, les soucis d'assumer sa responsabilité d'un pays qui évolue vers l'émergence, un pays démocratique où quelqu'un peut se plaindre au sujet de mal qui lui a été fait. Je crois que ce sont des portes quand même d'ouverture. Voilà. Et puis, je vous dirais, le problème d'évolution dans la passation des marchés. Même aujourd'hui en France, il y a des scandales. En Espagne, le roi Carlos vient d'être condamné pour corruption, puisqu'il y a la non-prescription du fait de corruption. Donc, vous voyez, même dans des pays industrialisés, modernes, il y a toujours ces phénomènes. Et pour autant, ils ne sont pas classés avec 2.2 comme on le fait vis-à-vis de la RDC. Moi, je vous dirais sincèrement qu'il y a un effort considérable quand un gouvernement signe un pacte anti-corruption, quand un gouvernement met en place des structures de lutte contre la corruption, quand un gouvernement se conforme aux règles des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Nous avons ratifié même les instruments. La loi a été présentée au Parlement, notamment la loi portant régime de déclaration de savoir. Mais quand même, ce sont des efforts gigantesques. Voilà. Il y a des pays africains qui n'ont pas même les codes de conduite, qui n'ont pas un observatoire l'équivalent de celui qui détient la RDC, mais ils sont cotés en bonne place.
Voilà, nous n'allons pas rentrer dans ce qui est la transparence et à dire pour savoir s'ils l'ont fait parce qu'ils ont envie de nuire. Mais le souci pour nous, c'est de partir de ce que Constance a dit pour voir comment nous pouvons fournir beaucoup de force dans les pays. Avant d'écouter les auditeurs, essayons un peu de quitter la passation des marchés, les industries extractives, mais il y a aussi la préoccupation par rapport à l'administration publique d'une manière globale. Il a été beaucoup accusé et vous dirigez l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Alors, comment vous évaluez-vous la situation de l'évolution par rapport à la pratique dans l'administration publique, que ce soit dans l'enseignement, parce que ce sont les secteurs qui ont été beaucoup pointés du doigt dans la corruption depuis tous ces temps?
Commençons par l'administration publique. Vous savez qu'un certain chaos, une certaine anarchie avait eu domicile dans l'administration publique. On a diligencé la réforme. Et cette réforme avait comme point de chute, d'abord, la transformation des mentalités, le changement des mentalités à travers le code de conduite de l'agent public de l'État. Nous y sommes attelés. Nous avons, au même moment qu'on mettait en chantier les structures de la réforme, au même moment, l'OSEP commençait déjà à vulgariser les nouveaux types d'agents publics de l'État, c'est-à-dire un agent public de l'État travailleur, motivé, courtois, discipliné, incorruptible. Depuis lors, nous avons vulgarisé chaque agent recensé. Et nous sommes en train d'évoluer maintenant à la proclamation des résultats d'une manière globale. Et je vais vous dire sur le terrain. Au moment où nous sommes en train de diligenter la réforme, sous le ministre de tutelle, son Excellence Jean-Claude Ekibala, à qui j'envoie également un bouquet de fleurs pour sa reconduction, je vais vous dire qu'on a révoqué pas moins de 400 fonctionnaires, sans compter le magistrat qui ont été sanctionnés par l'ordonnance du chef de l'État. Donc il y a quand même un effort sensible. Notre baromètre interne montre très bien qu'il y a eu des efforts qu'il faut admirer. Et même on a organisé un séminaire des experts provenant du monde de la société civile, monde des affaires et des institutions publiques de l'État. Nous leur avons soumis un questionnaire pour qu'ils puissent voir si les efforts de l'un et des autres étaient encourageants ou pas. Pendant 3 jours, ils ont statué librement. Et ils ont coté la vision du chef de l'État. On a lu à leur attention la lettre résumant la vision du chef de l'État. Ils ont coté cette vision avec un pourcentage de 7 sur 10. Tandis que les efforts du gouvernement étaient cotés par une note de 6 points sur 10. Mais comment cette contradiction avec les indicateurs de transparence internationale?
Voilà. On ne va pas s'éterniser sur ça. Nous allons voir avec les auditeurs quelle perception ils ont, eux, de tout ce qui a été fourni comme effort, ce qu'ils proposent comme piste de solution. Papi est à Kinshasa, Adrien est à Kananga, Ramazani est à Baraka, dans la province du Sud Kivu. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Papi, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour, cher invité.
Papi,
bonjour.
Vous avez suivi notre introduction, mais le souci dans cette émission, c'est de dégager des pistes et des solutions d'une manière plus efficace, ce que nous devons faire pour maintenir les caps dans la lutte contre la corruption. Quelle est votre proposition?
Oui, merci, M. Gilles. Comme l'invité vient de le dire, la corruption dans notre pays, tout comme dans le monde entier, n'est pas démontrée. Donc, c'est un fait réel, un fait social vraiment qui n'est pas démontré. Mais en écoutant ou c'est comme si il se focalise seulement sur les ou sur le plan administratif de ces concepts de corruption. Mais c'est dire la corruption en soi, c'est une infraction à droit pénal congolais. Donc, au-delà des sanctions administratives, il faut qu'il y ait aussi des sanctions judiciaires.
Ça, c'est bien.
Alors, avant d'en arriver, il serait mieux qu'on puisse les renforcer, soit que l'indépendance du pouvoir soit effective. Parce que si vous parcourez dans des cours des tribunaux, vous vous rendrez compte que il n'y a vraiment pas de sanctions en matière de corruption. Cela est pour cause. Parmi les causes, c'est par rapport à l'instruction ou de cette infraction-là de corruption. Mais je suis pénaliste, avocat. La corruption est l'une des infractions qui sont difficiles à prouver. Donc, pour réunir les preuves en matière de corruption, il faut avoir des connaissances spéciales par rapport à cela. Alors, j'ai demandé premièrement au gouvernement de pouvoir sensibiliser la population, de pouvoir renforcer la capacité des juges, des magistrats, des parquets, parce que je peux même aller au-delà de pouvoir créer même des chambres spéciales dans des cours de tribunaux pour être capable à poursuivre les auteurs de l'infraction de la corruption. Mais il faut aussi attaquer le mal à la source. Si on parle de solaires, on parle de gens qui sont déjà devenus addicts, mais vous savez que la corruption même est même appliquée même par les petits enfants. Donc il faut la sensibilisation, les mesures pour une bonne citoyenneté par rapport aux enfants. On peut aller même au-delà de cela, donc commencer la sensibilisation au niveau de l'école primaire, secondaire et universitaire. Parce que si aujourd'hui on se limite seulement à sensibiliser, à attaquer le mal en amont, en aval là-bas, ces enfants-là viennent avec cette mentalité-là. Donc il faut revisiter notre politique criminelle pour rendre un peu facile la poursuite de l'infraction de la corruption. Cela demande de la volonté politique parce que jusque-là, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas du tout effective, donc personne n'ignore. Donc il faut qu'il y ait...
Alors Maître Papier, on vous a suivi. Oui, Maître Papillon, vous a suivi, il y a beaucoup d'auditeurs sur notre standard. Vous estimez qu'il ne faut pas parler de la corruption seulement sur le plan administratif, mais il faut aussi, en plus, s'intéresser à la corruption sur le plan judiciaire. Alors, c'est ce qui est aussi important. Comme c'est difficile à prouver, il faut renforcer les capacités des juges et des magistrats, mais pourquoi pas aussi créer des chambres spécialisées dans les cours des tribunaux qui doivent vraiment s'occuper des cas de corruption. À tout cela, il faut aussi mettre une bouchée double avec le travail sur la sensibilisation en famille, à la base, chez les enfants, pour qu'ils puissent avoir une mentalité nouvelle dès lors quand ils vont intégrer le monde professionnel. Merci beaucoup, Maître Papi, de nous avoir appelé à Kinshasa. Nous avons à Kalanga un autre avocat, Maître Adrien. Vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji, bonjour à monsieur l'invité, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi l'analyse de Papi ici à Kinshasa, qui estime que cette question elle est transversale. Là, on ne doit pas l'aborder seulement en regardant l'administration. D'ailleurs, vous le savez, plusieurs fois, quand on parle de l'administration, tout le monde a tendance à tourner le regard vers l'administration publique. Des fois, on oublie d'autres secteurs de la vie. Alors, comment, d'une manière efficace, dans votre milieu, on peut arriver à mettre fin, à combattre, à lutter efficacement contre la corruption?
Merci beaucoup, Pierrot, de la parole accordée. Je pense que j'ai fait un petit commentaire donc sur la page. Je pense que la corruption, c'est vrai, c'est un fait réel. C'est déjà, la corruption est considérée comme un fléau au niveau de la République démocratique du Congo parce qu'elle est pratiquée comme un sport national. C'est comme ça, C'est vrai, je ne suis pas contre ce que mon confrère Arti venait de donner comme piste de solution. Mais moi, je pense qu'au-delà de ce que le confrère venait de dire, il faut dire, c'est comme lui-même l'a dit, que c'est au départ une infraction. Je ne suis pas limité par là. J'ai essayé de dire qu'il faut que la corruption soit érigée en une infraction spéciale, donc à l'instar des violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi spécifique pour la corruption. Donc, par rapport à ça, on pourra maintenant augmenter la sanction, voir comment est-ce qu'il faut contraindre, parce que dans cette infraction, il ne faut pas voir seulement les corrompus, mais il faut voir aussi les corrupteurs.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, oui, il faut maintenant renforcer la sanction. Deuxièmement, moi je pense que la deuxième piste de solution par rapport à ça, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui est à la base de cet acte-là que j'ai dû considérer comme étant un fléau. C'est la pauvreté et puis le manque d'un bon paiement par le gouvernement congolais. Donc le gouvernement congolais doit se voir d'abord responsable numéro un dans cette corruption, parce que tous ces agents de l'État, tous les magistrats, toutes ces catégories-là déjà ne sont pas bien payés. Or, si le gouvernement commençait à revoir un peu les salaires de tous ces fonctionnaires-là, ça sera aussi un moyen efficace de lutter contre la corruption. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui touche 50, 70 000 francs congolais par an. Donc, il attend pendant 30 jours. Mais lorsqu'il est dans un raccourci, comme on l'a dit, quelqu'un qui lui présente 200 dollars, mais il va se dire que 200 dollars ici, pour les totaliser, il faut mettre 3 ou 4 mois. Là, il va prendre carrément. Mais s'il est bien rémunéré, il pourra refuser cette offre-là de la corruption. Et puis la sensibilisation, comme le confrère l'a dit, mais ce n'est pas la tâche du gouvernement. Nous tous, nous sommes obligés de sensibiliser, parce que nous sommes les hommes de la loi, pour faire comprendre aux paisibles citoyens que voilà, l'acte tel n'est pas du tout bon. Et pour terminer, je ne suis pas du tout d'accord, Pierrot, avec l'invité, lorsqu'il estime qu'il y a des efforts fournis par notre gouvernement jusque-là, franchement, laissez-moi vous dire que aucun effort n'est manifeste pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que les institutions, les instances censées lutter contre la corruption, ce sont ces instances-là qui se distinguent par ce fléau-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment intégrer la bonne volonté politique pour lutter contre la corruption.
Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez, au-delà de tout, il faudrait même une loi spécifique, pour, comme avec les violences sexuelles, la protection de l'enfant, il faut aussi une loi spécifique par rapport à la corruption, mais aussi à renforcer la sanction. Au-delà de tout, améliorer les conditions de vie et de travail de fonctionnaires et agents de l'État, de tous ceux qui sont souvent accusés, mais aussi, si on sait la sensibilisation, vous estimez que ce n'est pas le pouvoir du gouvernement, c'est un pouvoir de tout le monde, c'est toute la communauté qui doit s'impliquer dans la sensibilisation. Mais avec l'invité, vous estimez que l'invité parle des efforts, mais ces efforts ne sont pas manifestes, peut-être qu'ils ne sont pas assez vulgarisés. Merci beaucoup, Maître Adrien. Ramazani, vous êtes à Baraka, au sud Kivu. Bonjour, Ramazani.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Ramazani, vous êtes à Baraka et nous dégageons ensemble les pistes et des solutions pour arriver à réduire si pas, mettre fin à la corruption. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait?
Pour moi, ce que je peux donner comme avis, c'est que premièrement, devons d'abord le gouvernement congolais doit mettre en œuvre un service de suivi dans tous les services urbains, tout comme ruraux, tout comme ici chez nous à Baraka. Il y a des choses qui se passent, par exemple, au niveau des instances comme la DVDA, la DGI, où les détournements sont faits et rien n'est suivi. Personne n'est suivi pour avoir détourné de l'argent. Et là, je pense que avec ça, le Congo ne peut pas aller de l'avant. Si on a les suivis dans tous les domaines, on commence à suivre ceux qui sont, par exemple, accusés des corruptions. On les traduit devant la justice et ils sont punis comme, par exemple, l'ont dit le confrère du monde précédent, qu'il faut les punir comme on punit les gens qui ont commis des commis plutôt des...
Mais ceux qui, comme ceux qui ont commis des viols, les violences sexuelles et autres, considérer que la corruption est un fléau, alors il faut éradiquer complètement en renforçant la sanction.
Oui, la sanction sur si on sanctionne quelqu'un, par exemple, qui a été corrompu pendant 10 ans, d'autres verront ça, ils pourront plus accepter la corruption.
Voilà, cela veut dire qu'il faut aussi lutter contre l'impunité pour rendre efficace la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Ramazani. Maître Patrick, vous êtes à Matadi, dans la province de Bakongo. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Alors, vous avez suivi, Maître Patrick, on a presque déjà, d'une manière transversale, on a évoqué le renforcement de la sanction, on a parlé de l'infraction, mais plusieurs fois, quand on parle de la corruption dans notre société, c'est comme l'a dit Maître Papi, on a tendance à s'intéresser plus sur son aspect administratif, on oublie assez infraction, et pourtant, si on devait aussi renforcer du côté de l'infraction, ça peut dissuader les autres à arriver vraiment à mettre fin à cela. Et tout à l'heure, Maître Adrien a évoqué le fait qu'au niveau du pouvoir public, il ne faudrait pas qu'on soit soi-même on allume le feu, on vient jouer aux sapeurs-pompiers après, il faudrait que chacun soit vraiment impliqué réellement dans la lutte contre la corruption. Alors pour vous, qu'est-ce qui doit être fait au-delà de ce qui a été dit par d'autres compatriotes?
Bon, merci beaucoup. Je suis d'accord avec tous les précédents par rapport à ce qu'ils ont dit. La corruption, c'est un mal qui gangrène la société congolaise et qui est parfois difficile à éradiquer. Mais moi, je pense, comme les amis ont déjà dit, il faudra qu'on fasse un suivi judiciaire par rapport aux notions juridictionnelles. Parce qu'il faut d'abord qu'on définisse l'infraction de la corruption. La corruption, c'est une infraction collective qui ne peut être conçue que là où il y a deux personnes. Mais malheureusement, notre pays, apparemment, la corruption est devenue une infraction individuelle. Il faudra qu'on punisse et les corrupteurs et les corruptibles. Mais malheureusement, nous sommes en train d'assister à des scènes macabres où les grandes autorités corruptes et ils ne sont pas sanctionnés. Et c'est seulement la corruption qui sont sanctionnés. Moi, je pense que si on arrivait premièrement à expliciter ou à expliquer l'infraction de la corruption à tous les Congolais, que l'on
Oui. On a des petits soucis de ligne avec vous, Patrick, à partir de Matadi, la ligne soit entrecoupée, mais vous estimez qu'il faudrait d'abord que l'infraction de la corruption est collective, mais on a tendance à traiter ça de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus aux corrupteurs, et on oublie les corruptibles, et quand bien même, surtout si celui-ci est élevé en dignité, et là, ça devient compliqué qu'il soit poursuivi. Malheureusement, la ligne s'est détériorée entre Kinshasa et Matadi. On va terminer cette première vague des auditeurs avec Franck qui est à Vienne, et puis on va revenir à notre invité pour qu'il place ses mots par rapport à toutes les pistes et solutions de nos auditeurs. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, bonjour à l'invité, à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Vous avez suivi tous nos auditeurs, on a lu d'ailleurs cela, le message que vous avez déposé sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. La question doit être considérée dans son ensemble, hein, et surtout éviter la complaisance, parce qu'il y a des fois, on met la complaisance dans les choses les plus délicates, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut nous regarder avec un œil un peu, si on peut dire, de dédain. Alors, pour vous, efficacement, au-delà de ce que les compatriotes ont déjà dit, qu'est-ce qui peut être ajouté, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas suivi le début de l'émission, mais quelque part, je vous ai pris en cours de route quand l'invité était en train de faire allusion au roi de l'esclave. Disons que la corruption, c'est un fait qui est inhérent à la vie humaine, à la nature humaine. C'est vrai que il faut aussi le dire que c'est un état d'esprit, même dans le mental de certains dirigeants occidentaux, cela existe, et des cas on l'a, ou des cas on les a. Donc, juste là, je suis d'accord avec votre invité. Mais quelque part, je m'éloigne par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que la comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que telle figure occidentale a été soupçonnée dans cette pratique que nous allons objecter avec une certaine complaisance, quoi. Moi, je trouve que comparer d'abord le cas de l'Espagne et de la République démocratique du Congo, ça ne tient pas debout. Ce sont deux pays différents avec des structures différentes. Ce sont deux pays différents avec des niveaux de vie aussi différents au sein de la classe moyenne de la population. Et chez nous, quand on trouve, quand lui dit qu'il y a des efforts qui se font, je crois que là, on va quand même nous permettre de lui dire que peut-être lui le voit parce que il est à l'intérieur du système. Mais il faut qu'il sorte aussi un peu de ce système pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, il faut qu'on le dise que la corruption, c'est une maladie, c'est une gangrène, les amis ont tout dit. Donc, avec la corruption, aucun État ne peut se développer. Mais les raisons sont là. Donc, je dis qu'il y a deux catégories de citoyens. Il y a deux catégories de citoyens. Il y a deux catégories de citoyens. Il y en a qui sont bien traités, il y en a qui ne sont pas correctement traités. Alors, quand on parle de la corruption, il faut vraiment que ça puisse être clair. Il y en a qui se font corrompre pour aller passer des vacances en Europe avec les enfants. Il y en a qui se font corrompre pour s'acheter des jets et des luxe. Il y en a qui se font corrompre pour des raisons de subsistance pour envoyer les enfants à l'école. Il y en a qui se font corrompre pour avoir de quoi manger. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des inégalités flagrantes au sein de la couche de la population. Je crois qu'une manière responsable de combattre toutes ces pratiques, c'est d'abord d'appliquer une bonne politique salariale, de donner aux hommes le nécessaire dont ils ont besoin pour leur vie. C'est aussi appliquer la loi, parce que tant que nous savons qu'il y a des classes, des intouchables, il y a des classes, des hommes qui se savent au-delà des lois de la République, la justice ne fonctionne plus convenablement, donc on reviendrait plusieurs fois sur ce que nous sommes en train de dire ici. Mm-hmm. Mais dans tout ça, c'est l'homme congolais qui doit d'abord accepter de changer, de se réformer. On peut dire qu'on va réformer les lois, on peut dire qu'il y a des efforts qui se font, des réformes par-ci, par-là, mais des réformes au niveau de loi, sans toucher l'intérieur de l'homme, sans toucher le corps interne de l'homme, ça joue quel rôle? Je crois que le problème, c'est au niveau de l'homme. C'est l'homme congolais qui doit se remettre en question. Mm-hmm. C'est l'homme congolais qui doit se rendre compte que ça ne peut pas marcher comme ça. C'est l'homme congolais qui doit savoir que c'est son pays. Tant qu'il se laisse corrompre, il n'aura pas à se développer véritablement. Mm-hmm. Mais je crois qu'en parlant de la corruption, on n'est pas vraiment en droit de faire de complaisance. Non, moi je trouve que M. Jean-Marie, il a bien parlé pour faire des allusions au niveau de l'Espagne. Mais moi, je lui demanderais de se mettre à la place des Congolais de Massina, des Congolais qui n'ont rien à manger. Et il comprendra que la corruption qu'on est en train de dénoncer ici a plusieurs couches, a plusieurs étapes. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le système qu'on va faire une délibération assez complaisante. Pour moi, je trouve que les efforts sont encore à faire. Du sommet jusqu'à la base, l'homme congolais doit se remettre en question. Sans distinction.
Merci.
Et maintenant qu'on a confié la citoyenneté au ministère de l'Enseignement, c'est peut-être par là qu'il faut commencer à enseigner toutes ces valeurs qui doivent être apprises de la base, de l'enfance. Sinon, on ne peut pas attendre de quelqu'un qui a déjà 50 ans, à qui on donne une certaine responsabilité, et qui veut clarifier deux jours après, et lui demander de ne pas se faire corrompre.
Merci beaucoup, Franck. Vous estimez que les efforts ne sont pas assez visibles dans la population. Il ne faut pas peut-être les confondre avec les initiatives, mais si cela n'a pas l'homme comme préoccupation au centre pour les transformer, ça sera difficile. D'ailleurs, ça a été évoqué, on pourra aussi voir prochainement dans une émission l'importance d'avoir collé, si je peux utiliser ces termes, la nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. On pourra en parler. Merci beaucoup, Franck. On va revenir à notre invité tout à l'heure. Théodore, vous gardez la ligne, vous êtes en Bujima et au Kasaï Oriental. 081-899-6315, c'est le numéro d'appel pour contribuer dans cette émission consacrée aux efforts qu'il faudrait aujourd'hui fournir en RDC pour lutter efficacement contre la corruption.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Professeur Saint-Augustin Mouindambali, vous avez suivi les compatriotes et la question, elle est vraiment abordée avec beaucoup de sérénité. D'ailleurs, Franck estime que chaque fois que nous parlerons de la corruption, on ne doit pas y mettre de la complaisance. Voilà, tout ce qui a été dit par les auditeurs, quel est votre commentaire?
Merci, mon ami Gilbert. D'abord, je remercie les différents intervenants, puisqu'ils ont touché vraiment la corruption du doigt central. Le premier intervenant, qui est Papy, nous parle des chambres anticorruption. Ça, c'est capital. Dans le projet des lois, c'est là où je vais démontrer à ceux qui nous ont suivis qu'il y a des efforts consentis par le gouvernement pour atteindre juste les desiderata qui sont en train de formuler ici. Il parle déjà des chambres anticorruption. C'est maître, celui-là. J'ai compris qu'il est dans l'esprit même de la loi, dans l'esprit et la lettre du projet de loi que nous avons déposé au gouvernement, qui a déjà été adopté. Il y aura des chambres juridictionnelles anticorruption dans chaque parquet de la République. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, quand il me parle de l'éducation, il faut commencer par la base. Il est vrai, dans notre approche, nous théorisons la stratégie qu'on appelle des fesses. Il faut partir de la famille. De la famille, l'école de réception, la société prend le relais, et ensuite, le gouvernement, à travers les lois, corrige ce qu'on peut corriger. Et là, il faut comprendre la démarche du président de la République et de son premier ministre. Quand il détache l'éducation à la citoyenneté au ministère de l'Information, des médias, pour l'amener au niveau de l'école primaire, ils sont en train d'appliquer la théorie de Fels. Il faut commencer par la famille. Famille, je dis bien. Il ne faut pas sauter non plus. Commencer par l'école directement. La première éducation de base va partir de la famille. On dit tel père, tel fils ou tel fils, tel père. Donc, tout part de la famille. Dès que la famille a essayé de façonner, de fabriquer le moule d'éducation, l'école vient, le codifie dans un mélange, puisqu'à l'école, on n'est plus seul, appartenant à une famille, mais on est nombreux. On vous apprend comment les savoir-vivre, les savoir-être, à partir de l'école. Et le peu que l'école aura donné, se trouvera renforcé par la société. Le fait de cohabiter avec une multitude de cultures. Là encore, l'éducation doit être mise, l'accent doit être mis sur la corruption. Donc je dis, voilà les efforts du gouvernement que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas le premier à proposer la loi spécifique sur la corruption. C'est nous, l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, qui avons reçu la mission de préparer la stratégie nationale de lutte contre la corruption, avec 5 projets de loi. Et les projets de loi portant prévention et répression de la corruption. Nous insistons bien qu'il y ait des chambres juridictionnelles. Nous insistons bien qu'on commence par la base, qu'on accentue, qu'on mette la pression sur l'école, que les programmes intègrent les questions de civisme et d'éthique. Donc nous sommes en train de cheminer dans la même voie. Alors il y a un auditeur aussi qui a abordé une question d'une importance capitale. Quand il a dit, à part les lois spécifiques, l'homme, il faut mettre l'homme au centre de la sensibilisation. La première des choses, c'est ça. Et mettre l'homme au centre de tout, c'est ça qu'on appelle l'approche binôme. L'approche binôme qui consiste à tout ramener autour de l'intérêt de l'homme. Il faut lui donner un bon salaire. Là, le gouvernement a l'obligation de pouvoir pourvoir à un bon salaire, un salaire décent, pour que l'agent public de l'État ne soit pas tenté. Nous n'avons pas seulement abordé la question de la corruption sous l'angle administratif. Non, nous avons dit qu'il y a les aspects juridico-économiques, il y a l'angle administratif, juridique. Il y a également dans les secteurs des passations des marchés, on venait d'évoquer cela. Et surtout au niveau de l'éducation. On parle aujourd'hui des points sexuellement transmissibles, qui oublie cela. On parle aujourd'hui, Maître a dit d'aimer son anniversaire, maman. Ça dit tout. C'est-à-dire, maman, où est la part du maître? Où est la part du maître? Parce que demain, si je ne les lui donne pas, je risque d'être mal coté. Donc, il faut mettre d'abord l'homme au centre de tout, l'éducation. Et l'éducation se fait à travers la sensibilisation. Et c'est la mission qu'a reçue l'OFEP. Nous ne sensibilisons pas seulement les agents publics et de l'État, mais nous sensibilisons aussi les usagers des services. Car quand on parle de la corruption, il ne faut pas seulement regarder du côté du corrompu, il faut regarder aussi du côté du corrupteur. Et s'il y a un corrompu, si l'agent public de l'État s'avère être en position, c'est-à-dire passive, qui reçoit la corruption, il faut regarder qui a donné la corruption. c'est l'usager de service. Mm-hmm. C'est celui qui vient de l'extérieur qui vient avec sa correction. Donc, nous devons prendre le tout ensemble. C'est un couple inséparable. Même au niveau des infractions, pour les finales, comme ils sont des maîtres, des pénalistes, nous avons dit, il n'y a pas de petites et de grandes corruptions. Il y a la corruption.
Mm-hmm.
Parce que vous pouvez prendre un franc aujourd'hui, mais si vous prenez le 1 franc 1000 fois, ben vous aurez atteint quand même la grande corruption. Donc, il faut punir ça d'une manière équitable, de manière à décourager mm-hmm. les corrupteurs et les corrompus. Alors, il y a notre ami Ramazani qui a parlé des Barassa, je crois bien,
oui.
qui a parlé des structures au niveau de chaque service de l'État. Au moment où je vous l'ai dit, vous qui dites qu'il n'y a pas les efforts du gouvernement, le Premier ministre vient d'instituer déjà ce qu'on appelle des cellules d'infrastructure éthique. C'était sur proposition du ministre de la fonction publique qui a compris qu'on ne peut pas contrôler les questions d'éthique et de gouvernance si nous n'avons pas des antennes de relais dans chaque service de l'État. On a commencé par la primature. Il y a 3 personnes qui sont en liaison avec mon service, qui donnent des rapports régulièrement, et ça se fera avec tous les services de l'État, de manière à ce qu'à temps réel, nous soyons saisis des pratiques éthiques où, là où il y a des corruptions, il y a la concussion, il y a le vagabondage sexuel, où il y a l'absentéisme, et que l'autorité en charge des structures puisse réagir à temps réel. Nous n'avons pas seulement les cellules d'infrastructure éthique, mais nous avons prévu également des personnes de confiance éthique. Et pour avoir ces personnes de confiance éthique qui seront en relais avec l'OFEP, il faut effectivement procéder par un exemple et un examen sur leur intégrité.
Mm-hmm.
Parce que ne devient pas chantre de lutter contre la corruption, c'est lui qui veut. Ça peut être une partie théorique, mais en réalité, dans la pratique, vous ne luttez pas contre la corruption. Donc, nous sommes en train d'identifier les personnes qu'on appelle des îlots d'intégrité qui vont nous permettre d'asseoir la politique du gouvernement de lutte contre
mais,
la corruption.
Professeur, oui. Je crois que vous avez évoqué tout ça. Si on a écouté Franck et puis Maître Adrien qui sont revenus sur les efforts qui ne sont pas visibles, eux, c'est des fois aussi par rapport à la sous-information et au manque de sensibilisation. Par exemple, 400 personnes qui ont été révoquées pour avoir été surpris, accusées de corruption. Ce sont des choses des fois que les gens apprennent quand nous sommes dans le débat comme ça. Mais si jamais des cas, des procès sont tenus, des procès publics pour des cas de détournement, des deniers publics pour des cas de passation de marché, des contrats léonais, tout ça, si des cas comme ça sont exposés à la place publique, la population a une référence, il y a des procès qui se tiennent, ça peut quand même dissuader et les gens peuvent épouser l'idée des efforts qui sont fournis. Est-ce qu'à ce niveau, il y a un programme qui puisse permettre à ce que tout ce qui est fait soit apporté vraiment à la population pour qu'enfin elle puisse appuyer
hier. Pierrot, vous avez parfaitement raison. Nous devons renforcer notre plan de communication.
Mm-hmm.
Beaucoup de choses ont été faites par le gouvernement. Ça, il faut le reconnaître. Mais ces faits ne sont pas visibles, ne sont pas rendus à la place publique. Et là, j'ai demandé au ministre de l'Information, des médias, qu'il puisse nous accorder des plages d'émissions. Il y a même un contrat de partenariat sur notre table,
mm-hmm.
pour que chaque fois qu'il y ait au moins une fois par semaine, deux fois, des émissions qui parlent des pratiques, des modèles de pratiques à suivre, des modèles de pratiques à condamner. Et là, sur le plateau, nous allons nous mettre à évoquer tous les efforts, tout ce qui se passe de manière bien sensibilisée.
Voilà.
Et là, ça suppose aussi le moyen. Et là, je regardais un peu le partenaire qui ont envie à nous assister au début de l'opération, du lancement de l'opération, pour qu'ils ne puissent pas abandonner les efforts qu'ils ont à déployer.
Alors, faudrait-il aussi que votre structure puisse avoir une dotation qui lui permette de travailler, qui vous permette aussi de pouvoir vous déplacer partout, sensibiliser. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. 081-890-6315.
Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, Le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Théodore, vous êtes en Boujimaï, au Kassai oriental. Bonjour Théodore.
Bonjour Monsieur Perrault, merci pour la parole.
Alors, quand je regarde votre message, hein, le message de presse sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, vous avez beaucoup insisté sur les trafics d'influence, n'est-ce pas, que ce soit dans les industries extractives, que ce soit dans la passation des marchés. Vous estimez, dès lors qu'il y a trafic d'influence, il y a la même mise des pouvoirs politiques sur l'économie, cela ne peut pas permettre à ce qu'aujourd'hui même qu'on ait des contrôles parlementaires et qu'on finisse par punir ceux qui sont accusés de corruption. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, Théodore?
Ok, avant de donner l'exemple typique ici chez nous, dans la ville de Mbujimaï, je parlais de pour présenter que la corruption se présente en amont comme en aval de dont ils sont nés à la base. Aujourd'hui, par exemple, dans les industries extractives et les services de travaux publics qui manifestent dans toute la République. Pourquoi? Parce que toutes ces entreprises sont victimes. À la tête de ces entreprises, nous trouvons de dirigeants qui ont la même mise sur toutes ces entreprises-là. C'est ainsi, pour moi, je dis qu'il faudrait un contrôle vraiment parlementaire réel, qu'on puisse laisser les députés provinciaux ou bien nationaux faire leur contrôle, leur audit, vraiment d'une façon libre, dans la transparence, pour que l'argent que les partenaires donnent puisse être justifié de la manière correcte. Et je dénonce que la corruption est stigmatisée par les tenants du pouvoir. C'est ce que je donne, par exemple, l'exemple d'ici chez nous en Bujimaï. Vous savez, après les élections de 2011, on a eu, par la voix des ondes, on a parlé de partout là, pour dire qu'il y a eu 39 millions de dollars qui ont été mis pour l'asphaltage des routes ici. Par exemple, pour la ville de Bujimaï, il y a eu 25 kilomètres qui ont été programmés pour les routes qu'on devrait urbain, par exemple, pour la ville de Bujimaï. Il y a 20 kilomètres pour la ville de Bujimaï et 5 kilomètres pour la route pour la ville de Mouneditou. C'était jusqu'à ce jour, on a trouvé par exemple une route seulement qui a été asphaltée. Par exemple, d'autres routes sont toujours par mise de terre et de terre donc battues. Il y a même des gravés mis dans toutes ces routes-là. À Mouneditou, par exemple, rien n'est fait. Si nous faisons les calculs, 1 km vaut 1 million de dollars. C'est ainsi que nous disons, si nous posons des questions aux députés provinciaux et députés nationaux, quel genre d'audit fait-il auprès du gouvernement provincial ou bien gouvernement national pour que les peuples soient bien fixés pour la gestion de la chose publique? Voilà un peu ma préoccupation. Et je demande, ce sont des questions que nous posons aux députés provinciaux, ce sont les représentants du peuple. Ils doivent se justifier correctement. Voilà un peu ma préoccupation du jour.
Voilà, merci beaucoup Théodore. Vous avez évoqué là le rôle des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, les questions qu'ils doivent poser à l'exécutif pour savoir le marché octroyé à une telle entreprise pour une telle route, le fonds alloué, où en sommes-nous aujourd'hui? D'ailleurs, la semaine prochaine, nous aurons une émission Paroles auditeurs consacrée à l'évaluation du travail des assemblées provinciales pour l'exercice 2013-2014. Vous, la population, que pensez-vous du travail de vos députés provinciaux par rapport effectivement à toutes ces questions qui doivent être abordées en province, l'octroi? On l'a vu au Kassai occidental avec des ministres qui ont été convoqués à l'Assemblée provinciale pour les raisons de détournement des véhicules. On a accusé les gens de déniers publics. Voilà autant de questions qui se posent. Vous estimez que les élus doivent vraiment faire leur travail et cela peut contribuer à lutter efficacement contre la corruption. Merci beaucoup Théodore Omar. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot Lamégé, bonjour à l'invité.
Vous avez suivi les uns et les autres, Omar. Si on peut déjà, comme on tend vers cette dernière partie consacrée aux pistes des solutions, vous avez suivi l'état des lieux, il a été déjà exposé dans cette émission depuis le début. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit par le compatriote, alors qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace, Omar?
Merci beaucoup Pierrot. Je voudrais commencer par ces deux proverbes pour dire premièrement, on n'analyse pas les questions d'État avec passion, on les fait avec conviction et responsabilité. Et deux, le mandat politique n'est pas un mandat d'explication, c'est un mandat d'action et de résultats. Donc on se les lit. Je voudrais rapidement passer à mes solutions, mais je voudrais avant tout faire ce que mes amis n'ont pas fait. Ils sont limités à dire que la corruption existe. Mais je voudrais vous parler des cas que nous vivons en Kinshasa. Je me demande si l'observatoire qui dirige les professeurs a déjà fait un tour dans toutes les villes de Kinshasa pour voir comment les roulages rançonnent chaque jour les chauffeurs avec les mots d'alicace. Je me demande si l'on se fait un tour dans les stades, notamment les stades même lorsqu'il y a match, pour voir comment on donne l'argent aux policiers et on entre illégalement. C'est vrai, il y a eu des efforts, nous soutenons, nous félicitons. Lorsqu'il faut faire un tableau comparatif entre ces efforts et la réalité sur le terrain, les constats s'avèrent malheureux et on doit en tenir compte. Moi, je pense, pour arriver aux solutions, premièrement, la plus grande cause a été démontrée, c'est l'impunité. Aussi le temps qu'on ne punit pas, on aura toujours la corruption.
Oui.
Première solution, il faut que les pouvoirs judiciaires soient conscients et arrivent. Car on reconnaît l'état des droits si les règles établies sont sanctionnées et qu'on arrive quand même à condamner ceux qui ont violé. Deuxièmement, comme l'a dit Franck Desvienne, il n'y a pas de vertu sans le minimum de bien-être. On peut bien sensibiliser, on peut bien voter des lois. Si la personne qui est censée appliquer la loi n'est pas bien rémunérée, elle sera toujours exposée à la corruption. Et je voudrais finir avec la responsabilité de la population aussi. Lorsqu'on ne sait pas dénoncer un mal, c'est qu'on l'adore. Il faut que nous arrivions à dénoncer, comme on le fait à la raison Kati, il faut que nous arrivions à dénoncer au niveau de la justice et au niveau de l'État qui dirige les propres.
Merci.
Je pense que la somme de ces solutions sera une œuvre utile, on pourra en tirer les conséquences.
Merci, merci beaucoup Omar. D'ailleurs, nous aurons peut-être, on aura à demander au professeur à la fin de cette émission s'il y a un contact par lequel on peut pouvoir y atteindre l'OCEP si les gens ont des cas de dénonciation. Merci beaucoup pour cette proposition Omar, il faut dénoncer. Jacques, vous êtes à Ouvira, dans la province du Sud, qui vous entend vers la fin de l'émission. Jacques, bonjour.
Et bonjour, on va accorder la parole. Je n'ai pas été ensemble avec le professeur quand il dit qu'il y a eu des avancées, alors que le pays a été classé 154e et cette même année, le pays reste même statut. Je veux dire que vraiment, la corruption est un fléau dans le pays et pour y trouver des types de solutions, des mécanismes. D'abord, j'aurais voulu poser la question au professeur. Combien, pour dire qu'il y a eu des avancées, depuis que ce qui existe, combien de ministres ont été arrêtés, combien des ADG ont été exclus de leurs fonctions, combien de cités, nous suivons sur le voie des ondes, quand il y a une motion contre un ministre, vous voyez, il y a des enveloppes qui circulent au Parlement, et tout est terminé comme ça. Et ce qui concerne le cas de ma propre cité d'Ouvira, nous avons un fléau ici, de la même corruption, surtout sur les services de jeunes. Alors, vous achetez le projet spécial de circulation sur ces jeunes à 10 dollars, le même bureau vous donne 2000 francs sans notification. Donc, le visa est gratuit. Quand vous arrivez à la frontière, on vous demande encore 5 dollars, donc vous allez payer sans récit. Les gens qui passent, ils sont rassonnés 1000 francs. Donc, l'argent n'entre pas dans le trésor public. Mm-hmm. Vous voulez dire que c'est un système. En fait, c'est un système qu'il fallait trouver des solutions. Et moi, je voulais
Et d'ailleurs, quand on tombe déjà vers la fin, Jacques, c'est vraiment important ce que vous dites. Vous auriez voulu savoir aujourd'hui combien des ministres ont été arrêtés, des ADG exclus. On voit des députés qui sont souvent accusés d'avoir touché l'argent des ministres pour pouvoir retirer les signatures par rapport à une motion, voilà, tout ça. Mais n'oubliez pas aussi que Patrick nous a dit que ça devient difficile aussi des fois de prouver vraiment la corruption. C'est ça aussi la grande difficulté. Merci beaucoup, Jacques. Nous allons terminer l'émission avec vous, Patrick. Vous nous appelez de Londres, en Grande-Bretagne. Vous avez suivi les uns et les autres, Patrick, parce qu'on est à la fin de cette émission. Au nom des auditeurs, quel mot de conclusion vous tirez avant que le professeur puisse pouvoir donner la conclusion globale? On vous écoute, Patrick.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais louer l'initiative des guichets uniques pour l'enregistrement des affaires en RDC. C'est un pas dans la bonne direction. La deuxième chose, je pense qu'il nous faut un relan patriotique parmi les leaders à l'intérieur de notre pays. Est-ce que monsieur le professeur a une idée de combien de nos politiques effectivement des trafiquants.
Combien?
Ça peut être des ministres, ça peut être des parlementaires qui pratiquent ou bien les matières premières, ou bien l'or, ou bien le cuivre, ou bien le diamant. Mais comment voulez-vous que les gens qui sont appelés à servir toute la nation, toute la communauté, les gens qui sont appelés à passer les lois, les gens qui sont appelés à faire appliquer les lois, ce sont eux-mêmes qui sont à la base justement de ce qu'ils devraient protéger. Et quand on se trouve à l'étranger, qu'on voyage ailleurs, on voit qu'il se passe ailleurs, on se dit, mais quel espoir avons-nous dans ce pays tant que nos politiciens ne vont pas se rendre compte que le monde entier est parti et que finalement, à cause de nos matières premières, nous aurons toujours des clients qui viendront pour vendre nos matières premières, et à cause égoïste,
voilà. Patrick, c'est important ce que vous avez dit. D'abord, élan patriotique, dès lors que le politique se retrouve dans les business, dans les affaires, dans l'achat des matières premières, eux-mêmes, ils ne peuvent pas être jugés partis. Il y aura un conflit d'intérêts qui va s'installer. Ça sera difficile de faire appliquer la loi. Professeur, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait aborder, mais malheureusement, on ne peut pas toutes les vider. Dans 2 minutes et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Vous avez suivi les soucis de tous les auditeurs.
J'ai compris que les gens auraient souhaité qu'il y ait des exemples concrets, déjà, qui ont été frappés, qui ont fait des corrections. Ces exemples sont légion. Moi-même, je me suis rendu à la prison centrale des Makala, le centre de rééducation pénitentiaire des Makala. Je me suis entretenu, caméra à l'appui. J'ai même donné des vivres aux prisonniers des faits de corruption. J'y ai trouvé des PDG, j'ai trouvé des généraux, j'ai trouvé des mandataires de l'État, j'ai trouvé le commun des mortels des citoyens. Donc moi, j'ai le classement, et je l'ai dans mon bureau, si j'aimerais bien qu'on puisse les afficher, montrer la liste des personnes délinquantes éthiques, ils peuvent passer à l'OSCEP et ils avancent là. Alors, je vous dirai encore une fois ceci. Quand le président de la République est remanié, quand vous apprenez qu'un ministre est parti, est-ce nécessaire de pouvoir vous dire, voilà, parmi les faits pour lesquels le ministre a été limogé, il y a aussi les faits de corruption. Donc, on en a exclu. Vous avez insisté sur combien. Je me souviens bien, depuis que le président Kabila est là, sans compter les ministres qui sont partis d'une manière officielle après leur maniement, il y a à peu près 5 ministres qui ont été revoqués en plein mandat, ça qui est un remaniement général. Le premier, je ne citerai pas les noms, pour les cas d'indiscipline. Il a été un peu indiscret au niveau du conseil des ministres, il avait été revoqué. À l'époque, puisqu'il n'est plus en vie, que son âme repose en paix, le ministre est mini. Nous pouvons encore remonter un ministre qui s'est roué des coups avec des citoyens à la cité. Il a été révoqué. Nous pouvons encore avancer le ministre de l'enseignement supérieur, puisque son entourage était truffé des gens qui pratiquaient la corruption, le ministre était sanctionné.
Voilà, mais un mot.
Alors, moi, un mot, c'est que j'ai retenu ceci, et je remercie en félicitant tous nos auditeurs, nos intervenants, il faut une loi spéciale anti-corruption. J'ai déjà déposé ces projets au niveau du gouvernement. Ce n'est pas le code pénal qui va résoudre les questions de corruption. Il faut une loi spéciale anti-corruption. Il faut que tous les hommes s'impliquent. Ce n'est pas seulement le gouvernant, même le gouverné. Ah, il faut, il y a déjà la volonté politique.
Voilà, merci beaucoup au professeur Saint-Augustin Mouindambali. Patrick de Londres a évoqué aussi l'élan patriotique pour sauver la nation. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir. On se retrouve demain à 11h30, heure de Kinshasa.